Le journal Noéla Luzitu Kabambi.
Le général sénégalais Babacar Gaye revient à la tête des troupes de la MONUC. Il remplace temporairement son successeur, l'espagnol Vicente Díaz de Biegas, qui venait de démissionner. La situation économique au Nord Kivu est plus en plus pénible. La Fédération des entreprises du Congo parle d'une augmentation de 50% des prix des denrées alimentaires depuis la reprise des hostilités dans la province en août dernier. Et puis nous irons à Kananga au Kasaï occidental où on nous annonce la mise sur pied d'un comité provincial de développement par le gouvernorat de province. Bonjour à tous. Nomination à la tête des troupes de la mission des Nations Unies au Congo démocratique. Il s'agit en fait d'un retour. Le général sénégalais Babacar Gaye revient donc à la tête des unités militaires de la MONUC. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a replacé temporairement après la démission de son successeur, l'espagnol Vicente Díaz de Biegas. Marie-Chantal Lumba.
La nomination du général Babacar Gaye est valide pour une période de 6 mois maximum, afin de donner au secrétaire général le temps nécessaire pour trouver un successeur, précise un communiqué de l'ONU. Une nomination qui intervient alors que la situation à l'est de la RDC s'est dégradée suite aux affrontements entre les FARDC et le CNDP de Laurent Kunda. Le général Babacar Gaye, pour l'instant âgé de 57 ans, avait commandé les forces de la MONUC de mars 2000. À octobre dernier. À l'époque, sa mission d'une durée initiale d'un an fut prorogée à 2 reprises. Il avait été remplacé par le général espagnol Vicente Díaz de Villegas. Celui-ci a démissionné officiellement pour des raisons personnelles fin octobre dernier après avoir occupé son poste à la MONUC pendant 2 semaines.
Une autre nomination, c'est celle d'un émissaire spécial de l'ONU pour tenter de résoudre la crise en RDC. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a été nommé hier par Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU a indiqué que l'ancien président nigérian était personnellement prêt à se rendre dans la région pour rencontrer les présidents congolais Joseph Kabila et rwandais Paul Kagame. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a nommé Ibrahima Fall comme émissaire pour la crise en République démocratique du Congo. Ibrahima Fall est l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. Il devra venir demain mercredi ici à Kinshasa et ira ensuite au Rwanda et en Tanzanie. En Nord Kivu même, sachez que le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU est à Goma depuis hier après-midi. Au pied de son avion à l'aéroport international de Goma, Alain Leroy a annoncé à la presse qu'il est venu se rendre compte de la situation sur terrain, mais aussi examiner les voies et moyens en vue de renforcer l'action de la MONUC, particulièrement dans cette province où, selon lui, la violence a atteint un niveau inacceptable. On l'écoute au micro de Bernard Danyangi.
Nous venons voir avec le représentant spécial, M. Alam Doss, comment nous pouvons renforcer encore l'action de la MONUC, particulièrement dans le Nord Kivu, dans lequel évidemment la violence a atteint un niveau inacceptable et dans lequel la crise humanitaire est si forte. Nous travaillons bien sûr avec le représentant spécial et le force commandeur sur un renforcement des forces. Je rappelle que les 17 000, c'est sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est quand même un énorme territoire. Nous avons 5 500 troupes déjà dans le Nord Kivu, mais il y a plusieurs fronts dans lesquels nous devons laisser les forces. On sait très bien qu'on doit être aussi dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, en Ituri, combattre la LRA dans le Haut-Uele. Donc ça fait au moins 4 endroits, une surface très grande. Les humanitaires demandent qu'on soit dans beaucoup de villages pour protéger leur action. Donc nous sommes répartis. Il est clair que le mandat de la force, c'est d'interdire à des forces armées de rentrer dans Goma. Le Conseil de sécurité examine actuellement la demande de M. Doss de renforcer la MONUC. Il n'y a pas encore de réponse du Conseil de sécurité. Ça va être dans les prochaines semaines.
En ce qui concerne les négociations entre les belligérants, sachez que les députés nationaux du Nord Kivu ne sont pas d'accord avec les propos tenus par Lambert Mende Omalanga, ministre congolais de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes hier. Le gouvernement congolais a refusé de négocier seul à seul avec Laurent Kunda et qualifie le menace du CNDP à son endroit de, je cite, « déclaration d'enfant ». Et ce discours du porte-parole du gouvernement est jugé par les députés nationaux du Nord Kivu, inapproprié aux réalités que connaissent les populations victimes de ces conflits au Nord Kivu. Le porte-parole de ces députés nationaux affirme que ces populations ont plutôt un besoin urgent des solutions concrètes et immédiates. Jean-Louis Ernest Kiaviro est avec Marie-Chantal Lumba.
Quel que soit le choix politique qui peut être fait au niveau de l'exécutif, il est de l'intérêt de tous d'éviter un langage sec ou un langage qui peut empirer la situation. En tout cas, la déclaration d'aujourd'hui nous a paru comme une déclaration inappropriée qui a jeté l'inquiétude dans la population. Nous avons besoin des actions et non d'une escalade verbale. Nous avons besoin de la paix. Il faut qu'on puisse prendre des solutions pratiques. Nous proposons qu'on ne puisse pas restreindre les possibilités de négociation. De toute façon, ils rencontrent le Rakuna sur les champs de bataille. Pourquoi les gens ne peuvent pas se parler quand déjà les canons se parlent et ça a des conséquences aussi catastrophiques?
Quant au CNDP, il s'indigne du refus du gouvernement congolais d'entamer un dialogue direct avec lui. Bertrand Bissimwa, son porte-parole, précise que ce refus est contraire aux recommandations de l'Assemblée nationale et elle confirme la position militariste du gouvernement de Kinshasa. Bertrand Bissimwa l'a dit au téléphone à Marie-Chantal Lumba.
Il s'agit d'un grand étonnement pour notre mouvement de constater que le gouvernement congolais continue à user des manœuvres pour refuser de négocier avec celui contre qui il se bat. Le gouvernement doit négocier avec le CNDP parce qu'il se bat avec le CNDP. C'est avec le CNDP qu'il a des choses à discuter. Il y a un cahier de charges à discuter et ce n'est pas avec les Maïmaï. Le gouvernement veut amener les Maïmaï pour embrouiller, pour continuer à créer la confusion et continuer à pérenniser le malheur de la population. Nous pensons qu'il faut mettre fin à cela et le gouvernement, s'il ne veut pas négocier, il faut qu'il en tire toutes les conséquences.
Sur le chapitre économique, l'AFEC, Fédération des entreprises du Congo, juge préoccupante la situation économique au Nord Kivu. Ses responsables parlent d'une augmentation de 50% des prix des denrées alimentaires et autres marchandises sur le marché depuis la reprise des hostilités dans la province en août dernier. La ville de Goma n'arrive plus à se ravitailler pour ensuite approvisionner les villes de Bukavu au Sud Kivu et de Gisenyi au Rwanda comme d'habitude. Le président de l'AFEC Nord Kivu signale que l'insécurité en est à la cause et si les autorités ne se penche pas sur la question, bientôt la situation sera intenable. Depuis Goma, un reportage de Sifa Maguru.
À Goma, les produits vivriers qui proviennent des territoires des Masisi et Rutshuru, théâtre des affrontements, sont devenus rares et les peu qui arrivent galopent les prix. Par exemple, un sac d'haricots de 100 kilos se vend à 140 dollars au lieu de 80, un kilo de pommes de terre se vend à 250 francs congolais au lieu de 100 francs, un paquet de 10 poissons salés se vend à 20 dollars au lieu de 10 dollars. Les opérateurs économiques déclarent avoir de sérieuses difficultés pour exercer leur commerce à cause des problèmes d'approvisionnement. Entre autres causes à cette flambée des prix sur le marché, l'imposition des taxes illégales sur des véhicules transportant des marchandises et produits agricoles par des belligérants basés sur différents axes. Désiré Segaungu est président de la FEC Nord Kivu.
Il faut savoir que la situation économique vit la période que nous traversons est très critique. Le fait qu'il y a d'abord depuis un certain temps augmentation des prix des produits des premières nécessités, ainsi que le prix des produits agricoles au niveau de la ville de Goma, avec une situation sociale qui est restée stagnante, où le salaire n'a pas évolué avec l'augmentation des prix de ces produits.
De son côté, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a indiqué que tous les axes sont déjà accessibles et d'autres mesures seront prises pour pallier à cette situation. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis, en ce qui concerne la situation des personnes déplacées au Nord Kivu, des cas de choléra ont été enregistrés à Rutshuru, annonce faite hier par l'UNICEF après une mission de son personnel dans cette partie de la province du Nord Kivu. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance avance le chiffre de 7 à 10 cas de choléra dans 3 zones de santé de Rutshuru. Et pour venir en aide à ces déplacés de guerre, le Royaume-Uni promet d'envoyer demain mercredi 90 tonnes d'aide humanitaire d'urgence vers Goma. Le ministre britannique au développement international Douglas Alexander l'a annoncé hier. Cette aide comprend notamment quelques 18 000 couvertures, 11 000 bâches en plastique et 24 000 seaux pour transporter de l'eau, ainsi que 6 millions de cachets pour purifier l'eau. De son côté, l'Irlande a annoncé aussi hier qu'elle allait débloquer 1 million d'euros supplémentaires pour une aide d'urgence au Nord Kivu.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Pour ce tour de province, nous allons d'abord à Nitouri, Mireille Bukasa. À Bounia, le corps d'un enfant de moins de 2 ans a été retrouvé ce lundi matin dans la rivière Nyamukau. D'après les autorités de la cité, l'enfant a été emporté par les eaux de la pluie qui s'est abattue dans la journée de dimanche dernier. Toujours à Bounia, la toiture de l'école maternelle et primaire Kizito a été emportée par le vent lors de cette pluie. Plusieurs documents administratifs de cette école ont été également endommagés par les eaux.
À Bandundouville, certains parents se plaignent. Leurs enfants n'ont pas reçu les fournitures scolaires offertes par Mme Olive Lembe-Kabila pour les classes de première année primaire et celles venues de l'UNICEF pour les classes de deuxième année primaire.
Mais d'après les enseignants, ces fournitures quantifiées sur base de statistiques de l'année passée n'ont pas pris en compte l'augmentation de taux de scolarisation enregistrée cette année dans la ville. Les enseignants attribuent cet accroissement aux différentes campagnes de l'UNICEF pour la scolarisation des filles et surtout à la distribution des fournitures scolaires ainsi que la gratuité de l'enseignement pour les écoliers de premières années. Signalant que certaines classes de premières années primaires qui comptaient une soixantaine d'écoliers inscrits ont connu 30% d'accroissement.
Au Kasaï occidental, le gouvernement provincial annonce la mise sur pied d'un comité provincial de développement.
Ce comité aura pour mission de proposer aux ONG de développement les projets prioritaires de la province et la gestion de l'exécution des 10 projets. Selon le ministre du Développement rural, le constat fait sur terrain révèle que le financement dont bénéficient certaines ONG de développement n'est pas bien géré par leurs responsables, d'où la nécessité de mettre sur pied une structure qui contrôlera la gestion de ces fonds afin de répondre aux besoins des populations locales. Johnny Maï, ministre provincial du Développement rural, et joint par Cathy Kataï.
Plusieurs organisations non gouvernementales de développement obtiennent des financements de la part des différents bailleurs, que ce soit du côté de la Banque mondiale, du côté de l'Union européenne. Mais sur le terrain, ces financements, lorsqu'ils arrivent, ces financements-là ne répondent pas pratiquement aux raisons pour lesquelles les organismes seront donnés. C'est-à-dire, nous devons travailler avec les organisations de la société civile. Parce que pour éradiquer la pauvreté, on a besoin de la présence de ces organisations. Mais maintenant, pour coordonner bien l'action, nous devons, nous en tant que gouvernement, contrôler tout ce que les organisations non gouvernementales de développement obtiennent. Le projet qu'ils ont présenté auprès des bailleurs doit répondre aux besoins de la province. De sorte que lorsqu'ils obtiennent le financement, nous devons surveiller qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce financement. Est-ce que ce financement-là a répondu aux raisons pour lesquelles elle a été orientée? C'est en ce sens-là.
Cathy Kataï a également joint la coordination provinciale de la société civile du Kasaï occidental qui rejette cette initiative. Son président provincial propose par contre que le gouvernement provincial mette à la disposition de la société civile son plan d'action afin que celui-ci soit retransmis aux ONG de développement. Alex Mukanya.
Je crois que la coordination de la société civile, elle est là. Et les ONG en tant que composantes à part entière ont quand même ce caractère indépendant de pouvoir gérer les fonds qui sont en leur possession. Nous savons que tout projet de développement initié par les ONG de la province doit normalement répondre au programme de développement provincial. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement doit se mettre à gérer les fonds qui sont mis à la disposition des ONG. Parce qu'il y a une certaine indépendance au niveau des ONG. Parce que ces ONG vont répondre auprès des bailleurs qui les ont financés, ils ne vont pas répondre auprès du gouvernement qui n'a pas financé. Que le gouvernement provincial, tout ce qu'il peut faire, qu'il mette son programme d'action à la disposition de la coordination de la société civile pour nous permettre de les disponibiliser auprès de nos ONG afin qu'à chaque fois qu'ils auront des financements des bailleurs, que nous puissions les orienter pour que dans leur exécution, qu'ils tiennent compte du programme du gouvernement provincial.
En page culturelle, la demi-finale du Festival international de gospel de Kinshasa se tiendra ce 15 novembre au Centre culturel français à la Halle de la Gombe à 15h.
Ce festival qui a pour thème cette année l'unité dans la diversité promeut les jeunes artistes qui font de la musique gospel afin d'atteindre un public au-delà de leur communauté. Notez que la finale de cette deuxième édition du Festival international de gospel de Kinshasa aura lieu le 6 décembre prochain.
Hors du Congo-Kinshasa, l'opposition zambienne a déposé hier lundi un recours devant la commission électorale pour demander un nouveau dépouillement des bulletins après le scrutin présidentiel du 30 octobre. Ce dépouillement concerne 78 circonscriptions sur les 150 du pays, a indiqué à l'AFP un porte-parole. Le candidat du mouvement pour la démocratie multipartite MDD au pouvoir, Rupia Banda, a été investi dimanche, 2 heures après la publication des résultats définitifs, lui accordant une étroite victoire sur l'opposant Michael Sata. Pour rappel, les Zambiens étaient convoqués aux urnes pour désigner le successeur de Lévi Mwanawasa décédé en août dernier. M. Banda doit poursuivre le mandat de ces derniers jusqu'en 2011. En sport, parlons de la Coupe du monde des juniors. Les Léopards d'âme qui sont en Afrique du Sud depuis 10 jours attendent du gouvernement les billets d'avion pour le Brésil où un dernier réglage est prévu avant d'atteindre Santiago le 16 novembre. Les Congolaises sont en possession de leur visa pour le Chili depuis vendredi dernier. À 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde Chili 2008, elles ont livré quelques matchs d'entraînement contre les garçons. Le premier, elles ont perdu sur un score des 2-4 et le deuxième aussi perdu sur le score de 1-0. Au premier tour de ce mondial, la RDC jouera le 20 novembre contre l'Allemagne, le 23 contre le Canada et le 27 contre le Japon.